Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Eric Liglione. Bonjour.
Bonjour.
Et Eric Dordilly.
Bonjour.
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 Bonjour à vous deux. Donc, vous êtes ici pour nous annoncer un atelier d'écriture que vous allez proposer dans le cadre des 24e rencontres de l'écologie et qui s'intitule donc « Des mots qui relient ». Ça se passera au coffee shop, le Troubayritz, à la rue du Marché à Die. Et donc, vous proposerez un atelier pour écrire seul ou à plusieurs avec des propositions créatives. Vous nous expliquerez un peu la démarche et le processus. Donc, de cet atelier. Ça sera ouvert à tous, sans prérequis. Vous préciserez pourquoi ce terme. Et puis, à partir de 13 ans, donc à partir des collégiens, lycéens plutôt. Voilà. Et donc, on peut peut-être présenter Eric Guiglione, présent déjà l'année dernière aux rencontres de l'écologie avec son spectacle « Quand je serai grand ». Et Eric Dordilly, donc vous-même êtes animateur d'ateliers d'écriture et vous êtes chroniqueur dans le journal du Diwa pour cette chronique « L'armoire ». Alors, tous deux, qu'est-ce qui est pour vous important, puisque ça rentre dans le cadre aussi des rencontres, hein, où il y a se lier, résister, je ne sais plus le
rêver.
Troisième. Rêver. Et donc, votre titre, « Des mots qui relient », est donc bien dans sa place pour ces rencontres.
Oui, en fait, on a essayé de concevoir un atelier d'écriture qui est un peu en lien avec le thème des rencontres. Et pour ça, ouais, on a pris un peu comme point de départ l'idée que sur un territoire où on vit, il y a quand même une difficulté, enfin, moi je trouve, du moins personnellement, qui est souvent d'arriver et à décrire toutes les choses dont on dépend, en fait, toutes les choses matérielles, humaines, non humaines, enfin, il y a quand même tout un gros micmac de choses dont on dépend. Si je prends le cahier qui est là devant moi, le micro, il y a eu des dizaines de personnes, des dizaines de matières qui... Et cette question de l'interdépendance, on a voulu la prendre sous un angle un peu ludique, pour en faire un atelier d'écriture, donc à la fois entre fiction ou documentaire, après sera aux gens à choisir l'angle qu'ils veulent. Et on a voulu prendre cet angle-là de l'interdépendance.
Eric Dordilly, pareil, alors, c'est le même sentiment, la même envie.
En fait, on travaille ensemble depuis plus d'un an, presque deux ans, et on anime des ateliers en commun. Et là, l'idée, c'est aussi... De construire un atelier qui soit expérimental, c'est-à-dire qui repose sur une autre mécanique que les ateliers traditionnels où ceux qui animent sont à l'extérieur et vont organiser, proposer un certain nombre d'activités autour de l'écriture. Nous, on voit les choses différemment. On veut absolument que ce soit un moment partagé, c'est-à-dire où nous-mêmes participons à l'atelier. Il n'y a aucune hiérarchie entre les différents participants, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre en œuvre une mécanique qui soit en cohérence avec les idées qu'on porte. Et donc, quand on parle, par exemple, de lien, de partage, eh bien, on va, nous-mêmes, dans l'atelier, participer, partager, au même titre que les différents participants. Voilà, c'est un des aspects importants pour nous.
Et donc, ouais, les consignes qu'on propose, on les imagine, mais on ne les a pas testées avant. On va les tester en même temps que les participants. Donc, on en est au même stade qu'eux, en fait.
C'est un peu l'idée. Moi, je fais pas mal de randonnées. Celui qui va proposer la randonnée, il va partager la randonnée avec ceux qui viennent avec lui. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait de l'extérieur et que les autres... Ce n'est pas consommé, en fait. Les gens qui viennent à l'atelier ne viennent pas consommer un atelier d'écriture. On vient vivre un moment. Et parmi les situations qu'on a imaginées, on va essayer aussi de modifier la manière qu'on a d'entrer dans l'écriture en sortant de cette écriture qui est centrée sur soi pour aller vers une écriture qui est plutôt collective.
Alors cet atelier, j'ai oublié de le mentionner, ça sera le mercredi 28 à 14h. Hein.
Oui, c'est ça. Et sur inscription également aussi, on va rajouter à l'accueil des rencontres une possibilité de s'inscrire aussi.
Il y aura peut-être des prolongations autour de cet atelier. Donc, comme vous proposez justement ces ateliers en dehors hein, de ces rencontres, quelle est la fréquence de ces...
Il y a un atelier hebdomadaire qui est avec le SCDD, donc c'est tous les vendredis à 16h30 en salle ouest, donc la salle qui est en bas à gauche, c'est la salle qui est aussi utilisée par la coopère de jeux, etc. Donc il y a cet atelier qui est un atelier hebdomadaire de fin septembre au mois de juin. Puis ensuite, après, il y a en dehors, en continuité, pour l'instant, après, il peut y avoir des groupes ponctuels potentiellement d'échanges de gens qui ont envie d'échanger sur l'écriture plus informelle. Après, s'il y a des gens, on avait déjà fait ça 2-3 fois sur des projets personnels, des temps d'échange, d'entraide, de soutien. Voilà, pour l'instant, on en est là.
Juste un point sur les ateliers du vendredi. On est sur un atelier qui est bénévole, c'est-à-dire qu'on n'a pas en dehors de l'inscription qui est faite pour le SCDD, nous, on n'est pas payé pour réaliser cet atelier. On les prépare ensemble. On a des séances qui sont proprement préparées avec un thème. Et puis, on a, comme on souhaite absolument que ce soit participatif, chaque personne qui vient à l'atelier peut proposer des sujets. Et la mécanique qu'on a mis en œuvre, c'est la suivante. Les sujets sont dans une enveloppe. Il arrive qu'on sorte les sujets de l'enveloppe, on les jette en l'air et on prend celui qui est le plus à gauche.
Donc, il y a le hasard qui est présent.
C'est ça.
Le hasard, ça prend une grande place pour vous, justement, dans votre travail.
Alors, pour moi, j'écris tous les jours. Depuis 3 ans, tous les jours. Et c'est une nécessité, et de cette nécessité va naître des situations de hasard, c'est-à-dire que je vais aller là où je ne serais jamais allé si je n'étais pas passé par cette discipline.
Et aussi, ouais, ce que je trouve intéressant dans les ateliers, c'est le cadre qu'on propose, ou parfois juste la contrainte du petit papier qu'on tire, ça peut être même quel qu'il soit, ça crée quelque chose qui souvent d'improvisé, qui parfois peut être assez, assez joli, et même surprenant, même soi-même on peut se surprendre dans les chemins où on va, et donc on essaie de jouer avec ça aussi, donc soit dans les consignes qui viennent de l'ensemble des participants, pour nous-mêmes sortir de nos propres schémas d'écriture, et puis on peut voir que parfois soit des consignes simples, ou parfois on essaie de faire des consignes plus élaborées, pour essayer de nous forcer à sortir de nos habitudes d'écriture, donc voilà, on essaie un peu tout ça. Et c'est assez surprenant des fois de voir les chemins sur lesquels ça nous amène.
Ces ateliers que vous proposez, hein, on parle de ce que vous connaissez, donnent lieu à combien de personnes pour venir ?
Alors en fait, on n'a pas fixé de nombre sur l'atelier qu'on a le vendredi, mais on a remarqué que s'il y a une dizaine, douzaine d'inscrits, qu'on se retrouve autour de 6, c'est très bien parce qu'on a vraiment le temps de faire plusieurs exercices et ensuite de lire nos propres textes et donc vraiment de partager le moment. Au-delà de 10, ça devient compliqué d'avoir ce moment vraiment partagé.
Alors, il y a beaucoup de jeux en quelque sorte hein, pour les ateliers d'écriture en général. Il y en a qui s'inspirent de l'Oulipo, qui est quand même une base importante. Est-ce que vous-même pratiquez un peu ces propos ?
Alors, pour vous donner un exemple, la semaine dernière, on a travaillé sur les comparaisons et les métaphores. Donc on s'est amusé à d'abord constituer des comparaisons et puis après les transformer en métaphores et puis ensuite d'écrire des textes en multipliant ces situations-là et en les prolongeant jusqu'à l'extrême et on s'est retrouvé dans des situations tout à fait exubérantes, impressionnantes, drôles, étonnantes. Et un des exercices qu'on a proposé aussi récemment, c'est d'écrire, par exemple, pendant 5 minutes d'un seul trait, c'est-à-dire sans mettre de point, ce qui oblige, en partant du jeu, ce qui oblige à entrer dans un flux de conscience. Et il va se passer des choses, là encore, qui sont complètement imprévisibles. Et on peut donc, comme ça, multiplier les exercices, les activités.
Puis aussi, on cherche à ne pas avoir une approche, entre guillemets, scolaire, enfin, ce qu'on cherche plutôt, c'est pas avoir une jolie écriture forcément. Enfin, parfois, on peut s'y atteler, ça peut être une direction de travail, mais c'est pas un but en soi. Le but, c'est le but premier de l'atelier, c'est aussi de déverrouiller l'écriture. de faciliter l'expression et de laisser sortir plein de choses, des descriptions, des émotions, des histoires, des associations d'idées improbables, et de laisser sortir comme ça vient, et même parfois de faire des choses nulles et qu'on trouve soi-même nul, alors certains trouvent ça bien, et de pas se brimer pour ça, quoi. L'idée, c'est vraiment de...
Il n'y a jamais de jugement, et on s'amuse.
Ouais, voilà, c'est ouais. Ça, c'est vraiment de ça, il n'y a pas de... Voilà.
Il n'y a pas d'enjeu.
Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de bonne manière d'écrire.
Les propositions créatives, vous en avez parlé, notamment celle de ces papiers jetés. Ça s'inspire un peu de... Ça me fait penser à Marcel Duchamp, hein, qui a traité avec le hasard.
Oui.
Et puis, il y a aussi le mouvement Dada. Oui. Est-ce que ça aussi, c'est pour vous une approche intéressante et que vous proposez également d'explorer?
Alors, on n'a pas, de spécificité thématique. Vraiment, on essaie d'alterner des séances qui soient plus techniques, comme par exemple d'éviter certains verbes, comme on a fait une fois, sur être, faire, avoir, de manière à forcer une autre écriture, une autre manière de dire. On a des jeux, on a trois mots, et à partir de ces trois mots, en fait, la séance se déroule sur plusieurs exercices. Un premier exercice pour rentrer, où c'est souvent une liste qu'on propose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que sur une liste, on va demander par exemple 12 éléments dans la liste, les premiers viennent spontanément, et ce ne sont pas ceux-là qui sont intéressants, c'est en cherchant les autres. Et donc, on va éliminer les premiers pour garder les suivants et pour construire à partir de là une séance. Ça peut être, par exemple, on avait fait une séance tout à fait amusante où on rendait, au fur et à mesure des exercices, la situation de plus en plus paroxystique. Donc, on demandait de la montée dans l'émotion, et donc jusqu'à son paroxysme, et on finissait avec des petits paragraphes qui étaient absolument d'une intensité folle. Et comme à chaque fois, on fait le tour de nos exercices en les lisant, en les partageant, et donc ça fait aussi des échos, et donc ça relance aussi cette dynamique d'écriture partagée.
Oui, puis aussi le guide, c'est se dire, tiens, là, on est pas mal, on planifie pas trop les séances à l'avance, c'est plus en fonction de la dynamique des séances, c'est qu'est-ce qui nous ferait plaisir, dans quelle direction on a envie d'explorer, et puis on cale la séance d'une semaine sur l'autre.
Et les participants peuvent eux-mêmes proposer. Donc,
oui, c'est ça, on a des petits papiers disponibles. Et donc, dès que quelqu'un a une idée, un thème, quoi que ce soit, quelque chose une direction qu'il a envie d'explorer, un jeu, on l'écrit sur des petits papiers. Et puis ensuite, on pioche tous les papiers jusqu'à épuisement. Puis après, quand il n'y en a plus, on en remet, chacun en remet. Et tout le monde participe, en fait.
En sachant qu'on a trois enveloppes, une avec des sujets courts, une avec des sujets moyens, une avec des sujets plus longs. Parce qu'en gros, chaque exercice dure entre 5 et 20 minutes pour les plus longs.
À 14h, là, ce 28 janvier, cet atelier, il durera combien de temps?
La durée, c'est 1h30, voire peut-être tirer jusqu'à 2h max, ouais. Sachant qu'après, il y a une petite pause et il y a ensuite une nouvelle programmation qui reprend à 16h30. Donc voilà, après ça va dépendre aussi du nombre de personnes et puis de la manière, est-ce que les gens écrivent beaucoup ou pas
Pour vous, qu'est-ce que ça procure en vous du fait de cet intérêt de l'écriture par un public, des participants, dans cette manière d'écrire par exemple?
Moi j'ai commencé un roman qui n'a jamais été achevé. Et j'ai continué à écrire tous les jours. Et puis, pendant 2 ans, et au bout de ces 2 ans, j'avais plusieurs milliers de pages. Et je me suis dit, il faut quand même, à un moment donné, sortir un peu, peut-être, pour aller voir dehors. Et donc, j'ai commencé à participer à des ateliers d'écriture avant d'en animer. Et j'ai découvert un moment qui est particulièrement riche, intense, joyeux, intéressant. Et c'est ça, finalement, dans l'écriture partagée, que je recherche aujourd'hui.
L'écriture manuscrite, c'est important aussi de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, le clavier remplace beaucoup le stylo pour la communication. Est-ce que la personne qui souhaite écrire pour elle-même ou pour d'autres utilise l'écriture manuscrite ou le clavier? Ça, c'est une question que je me pose.
J'ai l'impression que c'est quand on cherche à faire quelque chose de plus long, de formaté et qu'on a besoin de retravailler, l'ordinateur a quand même un côté très pratique. Mais sinon, en dehors de ça, il y a quand même un certain plaisir d'aller sur du papier aussi.
Moi, c'est assez étonnant, c'est que j'écris sur ordinateur, sur tablette, mais il y a certaines activités d'écriture que je pratique que sur le papier. Par exemple, je suis toutes les semaines dans les archives du journal du Diwa. Là, je travaille que sur papier. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin d'avoir mon carnet, de noter et après de faire mes fiches sur papier. Et là, dans les ateliers, c'est plutôt les gens travaillent plutôt sur papier, mais ils ont soit des feuilles volantes, soit des petits carnets qu'ils gardent, qu'ils conservent, qu'ils collectionnent.
Est-ce que vous avez aussi une approche du mot, ce qu'il est, ce qu'il représente?
Alors, ce qui est dans l'atelier qu'on a intitulé Écriture et oralité, on a des moments où on travaille sur la sonorité. Et moi, qui n'étais pas du tout conscient de cette dimension-là de l'écrit, puisque c'était que de l'écriture silencieuse que je pratiquais chez moi, à partir du moment où j'ai commencé à lire mes textes, à écouter ceux des autres, eh bien, les sons ont pris de l'importance. Et donc, il m'arrive aujourd'hui, en effet, d'avoir une attention beaucoup plus pointue sur les sons des mots, leur sonorité. Ça a pris vraiment de l'ampleur.
Oui, puis si on prend un même texte et qu'on est cinq à le lire, enfin, on a pas vraiment la même histoire aussi. Et donc, ce qu'on aime bien, c'est essayer de creuser aussi cette dimension-là, le rythme qui est propre à chacun dans son écriture et dans sa manière de dire aussi.
Et au sortir de chaque exercice, donc avec l'écriture propre à chacun ou par groupe, qu'est-ce qui retient l'attention ou qui plaît? C'est la musicalité des mots, le rythme aussi, des locutions. Qu'est-ce qui plaît?
Alors, tout joue, bien sûr. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que, alors que les exercices sont vraiment extrêmement variés, on retrouve des traits de personnalité. C'est-à-dire que petit à petit, il y a une espèce d'attente, d'attente réjouissante, parce qu'on sait que telle ou telle personne va traduire l'exercice d'une certaine manière. On ne sait pas encore comment, mais on sait qu'on va reconnaître quelque chose. Et ce qui est très amusant, c'est que les fois où il y a une rupture, c'est-à-dire que parfois certains exercices forcent la rupture, et là, le participant se retrouve à être entraîné dans une zone dans laquelle il ne va pas habituellement, et lui-même est surpris par le texte qu'il produit. Et comme on est une espèce de petite communauté, puisqu'on partage vraiment ça, c'est très intéressant de voir tous ces petits mouvements.
Et donc, une phrase créée, un texte créé, permet peut-être aux participants de se reconnaître ou peut-être de se connaître également. Et parfois, est-ce qu'il y a... vous le disiez un peu, se sentir désarçonné, ça c'est aussi apprendre à connaître.
Ce que je trouve assez fascinant, c'est que parfois on se retrouve en début d'exercice en étant complètement perdu, et puis après il y a des choses qui sortent, et c'est assez fascinant de voir des textes un peu comme un petit assemblage de mots comme ça, et qui prennent un sens fascinant parfois, et c'est cette manière d'explorer aussi, de mieux se connaître, de voir, et puis de voir qu'en fait on peut être capable en fait d'écrire des trucs vraiment sympas, drôles, sérieux, d'arriver à mettre des mots sur des choses qu'on pensait même pas pouvoir nommer parfois. Parfois il y a un cadre souvent qu'on garde dans cet atelier d'écriture, c'est qu'on cherche pas à faire écrire la personne le jeu. Enfin, on sait jamais si la personne elle écrit quand elle dit jeu, si elle parle d'elle, si elle parle d'un personnage complètement fictif. Et cette ambiguïté, ça, je trouve que ça donne aussi, ça permet d'explorer plein de choses de manière assez fascinante.
Et ce qu'on essaie de faire surtout, c'est d'échapper à l'atelier de thérapie. C'est-à-dire qu'il est arrivé par moments, puisqu'on arrive avec son vécu, il y a des émotions qui nous parcourent, et par moments... Certains participants sont pris par les émotions qu'ils ont vécues, et ça se traduit dans leur texte. Mais on essaie vraiment, justement, de ne pas entrer dans cette zone-là. Voilà. C'est un des... oui, un des éléments sur lesquels on est attentif.
Et puis on ne sait jamais si, on sait jamais si la personne a écrit juste une fiction et que c'est une autre émotion personnelle qui résonne au moment où elle écrit, mais peut-être que ce qu'elle écrit n'est pas du tout vrai. Et ça, on ne va pas le chercher à le savoir. Donc il reste toujours une ambiguïté possible.
Justement, il y a cette recherche d'exploration sur ces liens inattendus qui vous mènent hein, dans ce travail. Qu'est-ce qui éveille en vous la richesse d'un lien ou d'un mot ou d'une phrase qui émerge? Qu'est-ce qui fait richesse dans un texte?
Alors, mais c'est une voix, alors je dirais presque, c'est la voix de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est pas systématique, c'est pas fréquent, mais par moment, il y a quelque chose qui parle, c'est la vie qui parle, et cette vie qui rencontre une voix. Voilà. Et là, il y a des moments qui sont sublimes, vraiment. Et ça, c'est presque indicible, mais c'est vraiment perceptible.
Je reviens un peu, mais ça c'est une parenthèse, à l'atelier de dépliage. Hein. C'est la proposition que je vous ai faite au début de l'émission. Et justement, c'est le propos que tiennent la compagnie Najda qui prend ce processus, ce dispositif. Et c'est justement d'aller à la recherche de la justesse de l'humain qui est derrière les mots. Voilà. Et donc, il y a la place de l'écriture aujourd'hui. Quelle est-elle dans notre société? Est-ce que pour vous, il y a aussi, comme résume le titre des rencontres, hein, se relier, c'est aussi un lien qui peut être encore présent. Parce que là, on parle des réseaux sociaux qui sont plutôt asociaux, hein, qui divisent. Donc ce n'est pas la meilleure route à prendre. Mais l'écriture en elle-même, à plusieurs, c'est important aussi.
Ce qui est intéressant dans les ateliers qu'on pratique, c'est intergénérationnel, c'est hors genre, et donc c'est une parole commune qui naît et qui fait humanité. Voilà. Et ça s'arrête là, quoi.
Et puis aussi, de voir, quelle que soit la consigne, l'exercice, elle est commune au départ. Et de voir de ce point commun la diversité des chemins qui partent dans les chemins d'écriture et les singularités qui s'expriment à travers une consigne commune, ça crée du lien quelque part.
Oui, on fait vraiment communauté alors qu'on ne se connaît pas et qu'on ne cherche pas plus à se connaître. L'enjeu n'est pas de se faire des amis. Vraiment, c'est à travers la parole écrite et donc traduite en mots, exprimée, que le commun... né.
Quand je serai grand, Eric, ça avait été proposé l'année dernière hein, pendant les rencontres. Il y a eu d'autres dates ensuite, en 2025, pour cette présentation. Est-ce que, justement, ce texte de « Quand je serai grand » est issu d'atelier d'écriture ou de ton propre atelier d'écriture ?
En fait, j'avais voulu écrire ce spectacle. J'avais commencé à l'écrire il y a 3 ans, et je me suis dit, tiens, je vais me mettre dans des ateliers d'écriture, ça va m'aider dans le processus. Et c'est comme ça que j'avais commencé à participer à un atelier slam qui était proposé par le SCDD, et j'avais vraiment aimé pour toutes les raisons qu'on a citées depuis le début. Et suite à ça, j'ai écrit en parallèle ce spectacle. Donc, ce n'était pas directement pratiqué pendant les ateliers, mais en fait, il y a un truc qui est incroyable dans ces ateliers, je trouve, c'est que ça donne confiance quand même. Enfin, à partir du moment où... Alors après, effectivement, la confiance, c'est d'arriver à se lancer un peu dans le vide. Mais si on se laisse... On n'a pas peur de... Mais après, il y a des choses qui viennent et qui sont assez fascinantes parfois. Et donc, ça donne confiance dans la capacité que même si on n'est pas littéraire, enfin, je ne suis pas littéraire, je n'ai pas une grande culture littéraire, je n'ai pas un grand vocabulaire, mais qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut transmettre et qu'on peut quand même, par l'écriture, c'est pas du tout incompatible, en fait.
Vous-même, Eric Dordilly, vous êtes animateur d'atelier hein, sur le DIWA, donc avec le SCDD et Eric. Est-ce que c'est une activité professionnelle aussi, l'écriture, pour vous?
Alors, surtout pas, dans le sens où, pour moi, c'est vital, c'est-à-dire c'est comme marcher. Voilà, c'est du même ordre, c'est nécessaire, c'est indispensable dans mon quotidien. Et ma recherche n'est pas d'être écrivain. C'est de même que on ne demande pas à. C'est ce que je dis aux participants en début d'année quand il y a une espèce de tension parce que l'écriture elle est associée à l'écrivain, donc la figure de l'écrivain, avec, etc. Bon, en fait non. C'est on ne demande pas aux gens qui jouent du piano ou de la guitare dans leur chambre s'ils veulent faire l'Olympia. Eh bien là c'est la même chose. Le plaisir d'écrire, il passe pas par l'idée de voir se reconnaître en tant qu'écrivain ou d'aspirer à l'être. Moi j'aspire pas à être écrivain. Par contre, j'aspire à écrire. Je respire à écrire. Voilà.
Sans être trop intrusif, mais écrire pour qui ?
Alors, moi j'écris, c'est dans la mesure où c'est vital, c'est nécessaire à mon quotidien, à ma respiration, à mon rapport au monde, pour examiner, pour plein de raisons, mais pour qui ? Aujourd'hui, en n'ayant jamais cherché à écrire pour quelqu'un, eh bien, j'écris pour le journal du Diwa, pour ses chroniques. J'écris pour la petite revue Tu lis-tu, éditée par la librairie Mosaïque. J'écris pour... En fait, à chaque fois qu'il y a un espace dans lequel je peux écrire, j'écris. Mais il n'y a pas de destinataire particulier. Voilà. Mais ça peut être pour mes enfants, ça peut être pour n'importe qui. Pour qui veut, en fait.
Il y a une certaine constance aussi dans au travers des générations de personnes qui écrivent. Est-ce qu'il y a toujours une continuité intergénérationnelle ? Est-ce que on peut penser qu'aujourd'hui, avec Internet ou les téléphones portables, on est plus à tapoter sur un clavier ou un écran ? Est-ce que l'écriture elle-même a toujours grande prise sur la jeunesse ?
En tout cas, on a vu l'année dernière, dans le cadre de l'atelier qu'animait tout seul Eric, mais auquel je participais, il y a eu une intervenante qui manifestement était toute jeune et qui nous a éblouis par la qualité de son écriture, son intensité et ses références. Pour donner un exemple, dans un des petits exercices, j'avais cité un petit passage de Bobby Lapointe. Et en fait, la chanson, elle la connaissait par cœur. Voilà, elle avait 18 ans.
C'était quelle chanson ?
C'était « Akati t'a quitté ».
Ah oui, moi, je la mettrai pour la fin de l'émission. est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous au-delà des ateliers que vous proposez et puis de cette rencontre, pendant les rencontres de l'écologie, pour vous, chacun, Eric, est-ce que d'autres dates sont à prévoir, par exemple, pour quand je serai grand ?
Pendant les rencontres, non, il y a plusieurs ateliers auxquels j'ai deux, trois ateliers à minima sur lesquels j'ai vraiment, vraiment envie d'aller. Puis il y en a plein d'autres aussi qui me font envie. Je verrai comment j'organise tout ça. Et sinon, je joue prochainement, la prochaine date dans la Drôme, c'est le jeudi 5 février à 18h à la médiathèque d'Oust-sur-Scie. Donc ce sera en entrée libre et au chapeau.
Et Eric Dordi ?
Mais moi, je prépare, en fait, je fais partie des ours de Glandas. Et à ce titre-là, je prépare le centenaire des ours de Glandas qui vont avoir lieu en septembre 2027. Et donc, je commence déjà à préparer, construire des partenariats, des projets dans la perspective de ce centenaire.
Nous allons vous retrouver donc pendant ces rencontres, hein, je le rappelle, mercredi 28 janvier au café Shop La Troubaïritz. Ça sera à 14h. Et donc venez nombreux, pas trop. Et puis peut-être qu'on se recroisera pendant ces rencontres de l'écologie. J'ai encore une question pour vous. Quelle est la... Je l'ai posé en début d'émission, mais cet atelier d'écriture, est-ce que ça revêt aussi un aspect écologique, personnel ?
Alors, l'écologie, dans le sens vers la nature, c'est pas tant l'enjeu. En revanche, la façon de vivre ensemble, oui. De reconsidérer la façon de vivre ensemble, ça, c'est incontestable.
Eh bien, je vous remercie tous deux, Eric Giglione et Eric Dordi, d'être venus sur RDIWA pour nous annoncer donc cet atelier. Je vous rappelle qu'Eric Giglione, tu as un site internet.
Oui, ericghi.fr.
Et Éric Dordi, vous avez une page,
un blog qui s'appelle Dehors Dedans.
Dehors Dedans. Ouais. Très bien. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au
Ce soir, au bar de la gare, Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était toc, dit Igor, qui s'endort, ivre mort, au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, l'effet tarpaillard du bar, car encore Igor, il dort, mais près de son oreille, merveille, un réveil vermeil, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tac-a-ti t'a quitté, tic-tac, tic-tac, tac-a-ti t'a quitté, tic-tac, tic-tac, tes cocu qu'attends-tu, quitte-toi tes cocu, tac-a-tac-a quitté et quitter ton quartier, tac-a-ti t'a quitté, ta tactique était toc, ta tactique était toc, tac-a-ti t'a quitté, ôte ta toque et troc, ton tricot tout crotté et ta croûte au couteau. Quand t'attends t'attaquer, contre ta cocotée, quatre écus tout compté, et quitte ton quartier, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté. Tout à côté des catins, des catita qui n'est un coquer, coquin, et des diques coquettes, tout en tricotant, caqueté, t'es discuté, t'es critiqué, t'un compte toqué, qui comptait tant tiquant, tout un tas de tickets de quai, quand tout à coup, tic-tac, tic. Oh matin, quel réveil, matin, quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur. Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie.